Europe 1, la France bouge. Aurélien Fleureau.
Et c'est la dernière partie de notre émission et c'est l'heure de la saga, une entreprise, une marque qui a traversé les années, parfois des décennies. Aujourd'hui, Marc Avenue, pionnier du déstockage de marques textiles depuis bientôt 30 ans.
La France bouge, la saga du jour.
Bonjour Charlotte Barrican.
Bonjour Aurélien.
C'est grâce à vous que nous allons tout savoir sur Marc Avenue. D'abord, avant de devenir ce pionnier du déstockage, eh bien, ça a été compliqué. Hein, dans les années 80, ce modèle dit d'outlet ne marche pas du tout auprès des consommateurs français.
C'est cela, et ça s'appelait Usine Center, déjà avec ce concept d'outlet, donc avoir accès à de grandes marques à prix cassé. Et comme nous le raconte Zachary Le Riche, le directeur général de Marc Avenue, ça a été un échec.
Il y a eu des ouvertures un peu partout en France. On ne s'attardait pas tellement à savoir où on s'implantait. Les emplacements choisis étaient mauvais. La publicité, le marketing autour des magasins d'usine a été pratiquement absent. Donc il n'y a pas eu de pédagogie du consommateur sur ce qu'était ce nouveau modèle.
Donc 10 ouvertures à l'époque et 8 fermetures dans la foulée. Mais tout change, Charlotte, avec l'arrivée d'un homme.
Oui, Alain Salzmann, un entrepreneur français qui décide de s'emparer de ce concept américain, mais de faire autrement, il faut s'implanter dans une zone géographique qui a du sens. Alors en 1993, c'est à Troyes qu'est posée la première pierre de Marc Avenue.
Berceau des magasins d'usine, et le succès a été immédiat. Il faut dire que tout de suite a été présenté sous une même chapelle plusieurs marques, plusieurs grandes marques, dégriffé, et le succès a été instantané. Les consommateurs ont reconnu cette destination comme une destination incontournable dans leur shopping.
Et donc les clients ne sont pas les seuls à être séduits, on peut le dire que les marques aussi.
Oui, c'est l'occasion pour eux de vider les stocks restants des saisons précédentes avec des prix pouvant aller jusqu'à moins 70%. Et comme nous sommes à Troyes, donc les Lacoste, Petit Bateau ou encore Adidas se laissent tenter et ouvrent au sein de Marc Avenue ce qu'on appelle des magasins d'usine. Le succès est donc immédiat. Aujourd'hui, ce sont 7 centres commerciaux partout en France, de plusieurs milliers de mètres carrés et 500 boutiques.
Une offre qui va du prêt-à-porter, bien sûr, mais aussi de l'accessoire, au prêt-à-porter enfant, au maquillage, au bonbon. Ce qui a changé dans les années 2000, c'est l'appétence de nouveaux secteurs vers ce canal de distribution très qualitatif qui respecte l'image de marque et qui offre des rendements qui sont extraordinaires.
Alors pour le consommateur, le déstockage, c'est une façon de préserver son pouvoir d'achat. Avec les crises successives, sanitaires et économiques, la clientèle revient en force rien qu'au mois de septembre 2022. Comparé à la même période en 2019, la fréquentation a augmenté de plus de 10%.
Merci beaucoup Charlotte Barrican pour la saga de Marc Avenue. Damien Desforêts pour Stockomanie, est-ce que sur cet aspect d'implantation, au début c'était compliqué, peut-être les lieux n'étaient pas les bons, ça n'a pas forcément marché, le concept, est-ce que les débuts de Stockomanie, à quel moment on se dit, voilà, c'est à cet endroit-là qu'il faut essayer de s'implanter, on va tester, est-ce qu'il y a eu des mésaventures ou est-ce que la logique du déstockage était déjà bien installée?
Non, Stockomanie a été créé en 1961, donc on a un petit peu d'histoire. Ouais. Le premier magasin a été ouvert en 71, donc on a un peu une méthodologie. On est une entreprise, d'abord on est une entreprise familiale, 100% française.
C'était forcément plus petit au départ.
Bien sûr.
Voilà.
Commencer avec un magasin, deux magasins, etc. Ouais. Et donc on a une méthodologie de choix de site,
ouais,
qui est très, j'ai envie de dire, très prudente. On va dire ça comme ça. On veut rester très prudent. Donc chaque argent qu'on investit, on veut que ça rapporte. Donc on est très 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 prudent. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais fermé de magasin. On n'a jamais fermé de magasin. Je me permets de rebondir sur ce reportage qui était très intéressant sur Marc Avenue. En fait, il faut aussi voir, si on regarde un peu d'une vision un peu globale, en fait, c'est un changement de business model en sa globalité. C'est que jusqu'à maintenant, on avait des fabricants qui fabriquaient, on avait des commerçants qui vendaient. Assez simple.
C'est ça.
En fait, les Marc Avenue, c'est quoi? C'est finalement les fabricants qui mettent des magasins et ils gèrent eux-mêmes leurs magasins.
Ouais.
Et je pense, très humblement, c'est que un industriel est un très bon industriel, et un commerçant est un très bon commerçant. Mais l'inverse n'est pas obligatoirement vrai. Et je pense qu'il y a eu un peu cet échec-là au départ, c'est que les industriels ont pensé que c'était facile que de mettre des produits dans un magasin. C'est pas si facile que ça.
Ouais.
Et aujourd'hui, leur succès, et bravo à eux, et vraiment, c'est que tous ces industriels-là ont créé une branche de commercialisation par le biais de leurs magasins en propre.
Ouais.
Et on voit, vous parliez, je me permets de répéter les marques que vous avez évoquées, hein, du fait de Troyes comme Petit Bateau,
ouais,
ils ont une branche retail, ce qu'on appelle retail, où ils sont très bons. Ils sont très bons. Et effectivement, pour nous, commerçants, ce qu'ils font, eux, en direct, c'est ce que nous, on fait en moins, en indirect.
Effectivement, c'est aussi cette logique-là qui se met en place. Le textile, c'est vraiment important aussi hein, pour Stokomanie. On a parlé des différents moments forts de l'année, la rentrée scolaire. Le textile, là, pour le coup, c'est peut-être des choses aussi habituelles qu'on va chercher aussi chez vous.
Oui, c'est vraiment le point fort de Stokomanie. Hein. Le textile représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires, oui. Avec sur des grandes marques que je ne citerai pas, mais vraiment des grandes marques internationales, on est entre moins 50 et moins 70%. Donc ça, pour nous, c'est vraiment important. Et vous savez qu'en période de crise, comme nous avons actuellement, comme nous avons connu en 2008, hein, ces deux crises finalement en termes de consommation qui sont assez similaires, il y a trois secteurs qui sont affectés, c'est le textile, je dépense moins, je fais plus attention. Quelqu'un disait les bonbons, oui, la confiserie. Ouais. La confiserie, c'est le premier, j'ai envie de dire, produit consommable où on se dit, bah, finalement, je vais arrêter. Et le troisième sujet qui est aussi pour nous assez inquiétant, c'est 68% des Français sont prêts à rogner leur budget sur l'hygiène.
Ouais.
Et nous, on pense que Stokomanie, justement, d'une faiblesse, il faut toujours en faire une force. Il faut toujours être positif. Le textile, comme vous disiez, c'est vraiment notre fer de lance. C'est vraiment notre fer de lance. C'est 40% du chiffre avec des très grandes marques à moins 70%. Sur l'hygiène, la parfumerie et l'hygiène, nous sommes un des plus grands acteurs en France. Certaines marques, on est le premier client.
Ouais.
D'accord. Donc ça, c'est... Et sur la confiserie, on a créé des liens depuis longtemps. Donc, avec les partenaires. Donc, ça veut dire que malgré cette période de crise, sur les trois sujets sur lesquels on pourrait faire des arbitrages budgétaires, eh ben, on pense vraiment être la meilleure réponse contre la hausse de l'inflation et donc la baisse du pouvoir d'achat de nos clients.
Sur cette logique-là, Alexandre Mazurier, pour Silo, l'aspect budget, forcément, alors il est dans la démarche de base, forcément, mais ça prend encore plus de sens là, maintenant, en cette période ?
Clairement, il y a un vrai impact social au marché du déstockage. Aller dans un magasin de déstockage, évidemment, je peux y aller par opportunisme, mais il y a énormément de gens qui vont dans ces magasins parce qu'ils n'ont pas le choix. Sachant qu'on est en pleine période d'inflation et que l'inflation touche encore plus les produits de première nécessité, il y a une vraie mission sociale de ces magasins-là.
Et c'est la même chose aussi pour Willy Antigaspi, Jonathan, c'est dans cette démarche qui prend peut-être encore plus de sens là en ce moment. Vous êtes tout jeune, il y a quelques mois.
Oui, complètement, on le voit, hein, c'est, plus les réductions sont importantes, plus on peut faire des réductions fortes, plus les gens sont intéressés et achètent. Donc il y a forcément cette logique de pouvoir d'achat dans l'acte de décision d'achat et en se tournant vers les solutions anti-gaspi.
Merci à tous les trois. C'est la fin de votre émission, comme tous les jours dans La France Bouge, des parcours de vie d'entrepreneurs, des idées, de l'audace. Et cela continue lundi. Vous retrouverez Elisabeth Assayag entre 13h et 14h. D'ici là, dans un instant sur Europe 1, c'est le Flash, suivi de Christophe Ondelat.